Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie, spécial PIF jour 4. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un programme pardon, extrêmement chargé, puisqu'on va parler de 5 films. Voilà, et on commence tout de suite avec le film en compétition en boucle de Yuta Yamaguchi. Quelques flocons de neige tombent sur le coquet hôtel Fujiya dans le village de Kibune. Pas le temps de s'arrêter sur cette splendeur bucolique, le personnel et les autres tentent de s'extraire de la boucle temporelle de 2 minutes dans laquelle ils sont coincés. Alors, c'est un film que j'attendais énormément, qui était une de mes plus grosses attentes de la compétition. Je vous en ai déjà parlé déjà dans l'épisode précédent, et même plus tôt, hein, je suis sûr de vous en avoir déjà parlé dans ce podcast. Mais Yuta Yamaguchi, c'est le réalisateur de Beyond the Infinite 2 Minutes, qui était sorti en 2021, il me semble, en tout cas qui avait été au PIF en 2021 pendant l'édition en ligne. Pas au PIF, au BIF, pardon. Pas le festival de Paris, le festival de Bruxelles. Voilà, qui s'était tenu en ligne et que j'avais fait. Et ça avait été un de mes gros coups de cœur de ce festival. En gros, pour vous expliquer un petit peu le concept du film, c'est quelqu'un qui, en fait, tient un restaurant, il a un appartement communicant un peu au-dessus. Et quand il retourne dans son appart, il regarde son écran d'ordinateur. Et en fait, il y a quelqu'un qui lui ressemble étrangement, qui en fait lui dit hey, je suis toi, mais en fait, dans 2 minutes. Voilà. Et donc, tout le film est composé en un faux plan séquence. Voilà, c'est un enchaînement de plans séquences, mais qui est censé n'en faire qu'un. Bon, on voit les raccords, mais voilà, l'effet est quand même réussi parce que du coup, il y a une vraie continuité. Et c'est un film qui poussait vachement loin dans l'hypothèse de justement cette boucle. C'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on met plein d'écrans face à face? Enfin, bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont poussées pas mal loin, voilà, et qui font que j'avais énormément aimé ce film. Donc forcément, si on me dit le même réalisateur revient avec un autre film de boucle, je prends en fait, hein, clairement, j'avais vraiment vraiment très hâte. Je savais pas du tout par contre que la boucle faisait 2 minutes. Vraiment, je pense que c'est un des seuls réalisateurs qui a un sujet de prédilection aussi précis, les boucles de temporelles de 2 minutes. C'est quand même assez fort. Mais donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Écoutez, beaucoup de bien, vraiment un de mes gros coups de cœur de ce festival et de cette compétition. C'est un film très touchant, je trouve. Voilà, bon, on va partir, avant de partir sur l'aspect émotionnel, on va partir sur le découpage. Il y a au début et à la fin donc des vraiment justement ou des moments pardon où c'est vraiment découpé justement. Voilà, où pour le coup on a une composition avec plein de plans de types différents, avec donc une valeur qui est différente. Voilà, ce qui est logique. Bref, non, ce que je veux dire c'est qu'on a ces choses là donc au début pour exposer un peu les problématiques du film et des personnages, à la fin on en reparlera, et entre temps, entre ces deux trucs là on a un enchaînement de plans séquences, parce que il reprend le principe du plan séquence, qui est extrêmement logique, hein, pour le coup. Quand vous avez une boucle 2 minutes, c'est vrai que pour un plan séquence ça peut paraître quand même assez long, parce que un plan séquence faut vraiment bien le réussir, quoi. C'est à dire que j'imagine pas le nombre de prises qu'ils ont dû faire pour chaque plan séquence. Donc, ça devait être beaucoup. Mais donc, du coup, chaque boucle temporelle, donc chaque 2 minutes, est un plan séquence. Voilà, c'est-à-dire que on se centre sur le personnage de... j'ai plus du tout son prénom, mais bref, voilà. Un des personnages qui, donc, commence la boucle au bord de la rivière. On commence là. Il y a le plan séquence de 2 minutes, et après, on revient au bord de la rivière avec ce personnage-là. Et il y a un nouveau plan séquence qui commence. Donc, c'est vraiment un enchaînement de plans séquences de 2 minutes, le film. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quand même un film qui, mine de rien, parle de la société japonaise, dans le sens où elles ont un espèce d'hôtel auberge, pour les gens, tout simplement, et on sent quand même qu'il y a cette influence de il faut avoir une bonne hospitalité, il faut être vraiment au service du client. C'est-à-dire que on voit vraiment la culture à la japonaise, qui est, c'est assez rigolo, hein, parce que c'est un village traditionnel, voilà, dans un hôtel qui semble traditionnel. On voit vraiment cette culture là qui par moments est très amusante. Il y a un truc, par exemple, c'est tout bête, hein, mais il y a un moment, un client lui en fait sa boucle, il commence dans le bain, donc les bains qui sont très très chaud. Et donc, en fait, bah, il pète un câble et il se met à sortir et il est juste torse nu avec une serviette autour de la taille. Et ça, enfin, c'est considéré comme de l'exhibitionnisme, quoi. Et du coup, c'est extrêmement drôle à voir parce que, bah, du coup, en France, c'est normal, hein, en France, en Europe, hein, globalement. Voilà, vous allez à la piscine, bah, tout le monde est comme ça, donc c'est un petit peu normal. Et donc, autre exemple de ça, bah, c'est notamment bah, les employés vont demander à voix haute si elles peuvent rentrer dans les chambres avant de le faire. Elles arrivent, elles se mettent à genoux tout de suite. Hein, voilà, c'est vraiment, c'est typiquement très japonais aussi. Hein. Mais donc, ouais, effectivement, voilà, il y a tout cet aspect-là. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que bah, on s'enfonce dans les boucles et que les boucles se répètent, et que du coup, bon, bah, les personnages commencent à clairement un peu plus craquer mentalement, et donc plus à se libérer, bah, voilà, j'ai un peu vendu la mèche. C'est justement ce qu'on observe, une véritable libération des mœurs, je trouve, où il n'y a plus du tout ce rapport voilà, de se plier en quatre, de vouloir plaire à tout prix, etc. Et où vraiment on a plus un rapport d'égal à égal en fait entre les personnages. Et c'est moi un rapport que j'ai trouvé vraiment très très appréciable. Voilà, c'est ce que le film développe dans un premier temps. Et je trouve qu'en termes de bah, commentaire social, c'est vraiment vraiment pas mal. Mais le film ne va pas du tout s'arrêter là. Voilà, puisque après il y a un des personnages qu'on avait un petit peu oublié depuis le début du film qui vient et qui refait son apparition. Voilà, et en fait le film bah, part totalement rom-com en fait, globalement, voilà, le fantastique se met totalement au service du genre de la rom-com, un peu comme le film dont je vous avais parlé hier, Alpha et Home, mais cette fois en bien. Voilà, c'est vrai que bon, désolé pour Alpha et Home d'en mettre une couche, mais c'est sûr que pour le coup là, bah ouais, c'est fantastique au service de la rom-com et ça le fait extrêmement bien. Je crois qu'il y a genre trois boucles, donc trois plans séquences de 2 minutes où c'est juste les deux qui parlent, elle d'en bas et lui à sa fenêtre. Il me semble en avoir compté trois après, bon, je suis pas trop sûr de ce que j'annonce, mais donc ouais, effectivement, bah il y a ces plans séquences là qui sont trop bien et qui juste bah, font que on est vraiment à fond dedans. Et ensuite, après, bah, ils se servent des boucles pour bah, trouver des idées un peu, bon, on va dire saugrenues. Hein. À un moment, ils volent une voiture, ils partent en fuite. Enfin voilà, ils essayent de s'enfuir ensemble. Donc ouais, non, effectivement, c'est de la rom-com qui est très bien écrite. Voilà, qui bah, pour le coup, s'inscrit dans un univers fantastique très très bien écrit. Et en fait, c'est vraiment un film qui est, bah, du coup, ouais, comme je le disais au début, touchant. Qui est bah, génial à voir, en fait. Voilà, qui fait qu'on est impliqué émotionnellement. Qui fait que bah, ça fonctionne, en fait. Tout fonctionne. Et le fait que ça, justement, ça parle de plein de choses différentes, comme je vous ai dit, ce truc sur la société, à mon sens, et cet aspect un peu plus rom-com, le fait que ça parle de toutes ces choses-là, ça fait que techniquement, on a quelque chose qui se répète, hein, puisque c'est le même procédé en boucle, c'est-à-dire un plan séquence de 2 minutes à chaque fois. Alors, certes, c'est jamais vraiment la même chose qui se passe dedans, mais en même temps, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Mais donc, c'est vrai que malgré ça, bah, c'est un film qui, pour le coup, malgré bah, justement le fait qu'il se répète, et que voilà, ce soit son concept de se répéter, n'est jamais répétitif et ne crée jamais d'ennui. Et ça, c'est quand même très 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 fort. Et je pense que c'est un des rares films du pif. Et voilà, c'est quelque chose qui est typique du cinéma de genre en général. Vous allez voir où je veux en venir. Mais là, c'est une des rares fois où ça m'a pas dérangé. C'est le fait justement que bah, l'explication, le film tente une explication et qu'elle soit débile. Je crois qu'on en parlait tout juste hier. Pour le coup, là, c'est le cas. Hein, vraiment, ça explique bah, cette boucle. Mais ouais, c'est vraiment, l'explication est tellement bête, elle est vraiment débile, mais en même temps, ça s'inscrit si bien dans le contexte du film que bah, dans la vibe du film, que en fait ça marche, voilà, et ça marche, et fondamentalement, c'est absolument pas dérangeant. Voilà, cette explication-là, puis ça rajoute encore plus de fantastique dans le truc, et puis c'est cohérent. Donc, non, franchement, tout fonctionne bien dans ce film, tout s'aligne bien. Voilà, je pense que j'ai préféré à Beyond Infinite 2 Minutes parce que. Voilà, après Beyond Infinite 2 Minutes, c'est vrai que c'est un très très bon film dans sa qualité, mais j'avais pas non plus l'implication émotionnelle. Et là, l'aspect un peu bah, qui part dans la rom-com parfois, pour le coup, m'a vraiment apporté cet aspect émotionnel. Et ouais, j'ai commencé vraiment la journée avec un coup de cœur, donc ça m'a fait énormément de bien. Allez, on quitte la compétition pour partir du côté des séances cultes. Et donc, on va parler du deuxième film que j'ai vu aujourd'hui, à savoir À l'intérieur de Julien Maury et Alexandre Bustillo. Veuve depuis 4 mois, Sarah se prépare à accoucher seule le jour de Noël. Des émeutes urbaines embrasent les alentours le soir du réveillon. Une femme s'introduit chez Sarah et tente de lui arracher son bébé du ventre par tous les moyens. Alors, c'était une séance qui me donnait vraiment, vraiment très envie, voilà, puisque, bon, bah, c'est quand même un film qui est considéré comme culte, hein, voilà, même si, bon, effectivement, c'est pas parce qu'un film va être culte que je vais l'aimer, mais vraiment, bah, ça m'interrogeait, voilà, surtout que les films bah, de cette période, hein, années 2000, films d'horreur français, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein, voilà, je pense à bah, Tension, par exemple, à Martyr. Dans une autre mesure bah, les films de Gaspard Noé aussi bref c'est cette vague un peu cinéma de genre bah, de début années 2000 hein, que j'aime beaucoup et je me suis dit bon ça va s'inscrire dedans à l'intérieur voilà et c'est vrai que j'avais pas du tout aimé le film qu'ils avaient sorti en 2021 ou 2022, je sais plus, qui était The Deep House. Voilà, film, bon, ok, c'est sympa, bon, bah, ça se passe sous l'eau, etc. Mais fondamentalement, à part le fait que ça se passe sous l'eau, est-ce que ça raconte vraiment grand-chose? Non. Voilà, et donc, bah, je me disais, ouais, mais bon, là, c'est quand même leur film un peu culte, on va dire, le à l'intérieur. Donc, voilà, c'est un film qui est considéré par tout le monde comme leur meilleur et comme un bon film. Donc, bah, écoutez, on va se laisser tenter, je pense que ça va être bien. Eh ben, même pas, voilà, même pas, bah, très décevant encore bah, ce film-là. Je suis peut-être pas fait pour le cinéma de Mori et Bustillo, ou peut-être que c'est eux qui sont pas faits pour le cinéma, enfin, je sais pas. Mais non, encore une fois, je trouve hein, que le principal problème, c'est que c'est absolument le même que The Deep House, c'est-à-dire que les concepts sont très bien. Là, on a un home invasion avec vraiment bah, une femme qui veut prendre le bébé de quelqu'un voilà sans que bah, pour le coup on sache pourquoi pendant la quasi-totalité du film ça arrive à la fin et donc là on retombe aussi dans ce truc un peu explication un petit peu bon tiré par les cheveux etc qui gâche un peu tout pas très bien écrite voilà mais sinon on ne sait pas et je pense que ça aurait été préférable qu'on ne sache pas pourquoi donc non on a ce concept qui est extrêmement extrêmement intéressant voilà et juste le reste est tellement fade et tellement plat que enfin c'est un peu désolant en fait voilà je vais m'expliquer mais concernant le scénario j'ai l'impression que on a vraiment quelque chose de tellement mais caricatural et tellement stéréotypé et artificiel au possible enfin c'est-à-dire que il y a vraiment des moments où on se dit enfin on sait exactement ce qui va se passer en termes d'intervention c'est-à-dire que bon bah la femme s'introduit chez elle vous vous doutez que ça va pas être pendant une heure, bah, juste la femme qui essaye et l'autre qui se défend, qu'il va y avoir des intervenants extérieurs. On sait exactement qui sont les intervenants extérieurs qui vont venir et quand ils vont arriver. Enfin, voilà, c'est voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'en termes de découpage, bah, en termes de découpage scénaristique, c'est extrêmement prévisible et extrêmement mal fait, en fait, parce que ouais, le tout est prévisible d'une force et voilà quoi, c'est assez désolant parce que ouais, on se dit bon ok, bon bah là, voilà, au début en fait, bah, quand la femme essaye de s'introduire, elle appelle la police, voilà, et bref, la police arrive et fait, oui non mais madame, vous inquiétez pas, on vous renverra une patrouille pour voir si tout va bien. Bon bah, étant donné qu'il y a déjà d'autres personnages qui sont intervenus avant, on se dit tiens, qui va intervenir? Il reste qui? Oh là là, peut-être à ce moment crucial, peut-être la police va arriver, et bingo, la police arrive. Bon, voilà, je caricature un peu, mais c'est pour que vous vous rendiez compte de la chose. Autre chose sur la police d'ailleurs, hein, parce que pour le coup, bon après ils se sont expliqués, hein, mais ouais, je trouve que c'est très 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 mal fait du coup, hein, pour ce qu'ils ont expliqué après. Mais il y a vraiment beaucoup trop de mentions aux émeutes, je crois que c'est 2005 les émeutes il me semble et bref il y a énormément de mentions à ça et bah justement bah on a des personnages qui sont policiers hein, et à un moment bah il y a même l'un d'eux qui enfin trois d'entre eux qui arrêtent bah un jeune de banlieue clairement voilà qu'ils accusaient d'avoir mis le feu à des voitures et à voilà d'avoir balancé des cocktails molotov et tout bref et en fait je comprends pas pourquoi ça insiste autant dessus parce que en fait les réalisateurs après coup ont expliqué expliquer que oui, non, mais c'est que nous, à l'époque, en fait, on avait été extrêmement choqués qu'on puisse parler comme ça de la jeunesse française, etc., machin. Alors, je veux bien l'entendre, hein, mais pour le coup, mettez un propos, parce que là, c'est juste énormément de personnages qui le font revenir en mode non, mais avec ce qui se passe en ce moment et tout, voilà, c'est avec les jeunes et les voitures qui crament et machin et tout. C'est vraiment que des discours réac qui sont certes la plupart du temps désamorcés par le personnage principal, mais c'est quelque chose qui est très passager. Et en fait, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait une vraie prise de parti. Pour moi, la seule vraie prise de parti, et encore, je trouve qu'elle est implicite, c'est que les flics sont un peu montrés comme des connards et des incapables. Voilà, et encore, c'est à relativiser. Mais donc, oui, je sais pas, comme fondamentalement, ils n'avaient absolument rien à raconter dans leur film, voilà, qu'ils avaient juste un concept, donc qui concrètement, bon, aurait dû être un court-métrage, hein, voilà. Bref, mais ouais, vu qu'ils avaient rien à raconter, je pense qu'ils ont essayé de rajouter un propos politique, voilà, qui pour le coup, est à l'image du film, hein, qui n'a rien à raconter non plus. Du coup, c'est un petit peu regrettable. Et en fait, vraiment, j'ai dit ça un petit peu en mode rigolade aux personnes qui m'accompagnaient à la séance, mais je vais le dire très premier degré. Si vous n'avez rien à raconter, vous n'êtes pas obligé de faire des films. Voilà. Même si vous aimez ça, etc., vous vous en faites, vous les sortez pas. Enfin, je veux dire, voilà, c'est parce que là, on se retrouve avec des films qui ont des très bons concepts, mais qui fondamentalement sont vides. Voilà, c'est vrai qu'à l'intérieur, je vais vous dire, hein, moi, ce que j'ai aimé dans ce film, les effets pratiques, hein, pour le coup, qui sont vraiment très bien et qui sont vraiment la seule chose que je sauve en l'état. Maintenant, je vais vous parler d'un film qui est aussi un des fils conducteurs de ce podcast, hein, clairement, qui s'appelle Malignant de James Wan. Voilà, qui est en fait le film où j'ai découvert une autre forme de cinéma, dans le sens où je ne savais pas que c'était autant possible, de prendre autant de plaisir devant un mauvais film, voilà, parce que Malignant, en termes de qualité, c'est vraiment pas bien, mais le plaisir que j'ai pris, et j'aime bien dire cette phrase, est inversement proportionnel à la qualité du film. Et donc là, il y a un truc qui est un peu, voilà, comme ça, à la Malignant, où en fait le film va être tellement débile et tellement bête et tellement nul par moment que je vais le trouver vraiment très fun à regarder, voilà, mais ça en fait pas un bon film, hein, du coup, parce que je l'aime parce qu'il est nul, c'est tout. Donc non, ça en fait pas un bon film, clairement. Je pense à ce moment, j'avais envie de hurler de rire, j'ai dû me retenir d'une force pour pas éclater de rire. Mais ce moment où elle se fabrique une lance avec un couteau et un truc d'aspirateur, enfin. Franchement, fallait le faire, fallait oser, quoi. Et bref, c'est un film qui est beaucoup trop long pour ce qu'il doit être, qui pas mal gore, hein. Il y a beaucoup de sang, ça tâche et c'est sympa, mais en vrai, à part ça, c'est assez vide et ça raconte pas grand chose. Voilà, et je pense que c'est même pire que The Deep House, parce que pour le coup, The Deep House, ouais, bon, il y avait quand même un énorme potentiel, hein, mais bref. Là, je sais pas, c'est aussi le fait que je m'attendais à beaucoup, clairement qui a dû jouer, mais ça aurait dû être à la hauteur, en fait, de mes attentes. Voilà, encore quand je dis beaucoup, comparé à ce que c'est, je trouve que mes attentes n'étaient pas si élevées que ça. Voilà, et non, vraiment, du mal à comprendre l'engouement qu'il y a autour de ce film, juste très, 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 très déçu. Allez, on va retourner pour la dernière fois de cet épisode dans la compétition, puisqu'on va parler de Late Night with the Devil de Cameron et Colin Cairns. Jack Delroy cherche désespérément le petit quelque chose qui manque à son émission du divertissement pour dépasser la concurrence. Le soir d'Halloween, les segments se succèdent et l'ambiance commence sérieusement à déraper sur le plateau en plein direct. Alors, souvenez-vous, hier, je vous disais que j'avais un excellent pressentiment et que je sentais que ce film allait être très, 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 très bien. Écoutez, j'avais totalement raison, hein. C'était absolument super, vraiment, Late Night with the Devil, aussi un de mes plus gros coups de cœur de la compétition. Je pense que les trois meilleurs films du festival, je sais pas, il faut que je fasse le classement, j'ai pas encore l'ordre, je suis encore en train d'hésiter, mais en tout cas, les trois sans ordre précis, ce serait Godzilla, En Boucle et celui-ci. Voilà, pour le coup, c'était absolument absolument génial. Voilà, donc pour ceux qui vous avez entendu le pitch, en fait c'est mis en scène comme un espèce de found footage, comme si on avait donc retrouvé les images de cette émission télé, en fait, qui est en direct. Donc il y a deux aspects, donc on a l'aspect le direct de l'émission, et ensuite on a les backgrounds qui ont été filmés par d'autres caméras. Voilà, donc ça alterne entre les deux, entre les images images donc, de l'émission et les images des backgrounds. Et donc, c'est un film qui commence, qui prend son temps, quoi, qui commence doucement mais sûrement, voilà, qui va quand même essayer d'expliquer pas mal de choses, voilà, qui va essayer de faire comprendre toute la vie du personnage principal, de ce présentateur, voilà, qui, bon, bref, a pas mal de séquences avec plusieurs invités, comme c'est dit. Et y a aussi, bref, il y a tout ça. Et ce qui fait que, en gros, au début, on se dit, c'est quand même un petit peu long, hein. Voilà, c'est quand même un petit peu longuet, voilà, ça tire un peu sur la longueur, et en fait, au final, c'est un truc de fou, parce que je ne saurais même pas vous dire quand ça s'est passé, et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, sans s'en rendre compte, le film va nous happer totalement, mais vraiment quand je dis nous happer totalement, c'est de A à Z, et je saurais même pas vous dire quand je suis rentré pleinement dans le film, tellement ça s'est fait un petit peu naturellement. Mais ouais, c'est un film qui va vraiment réussir à prendre son spectateur d'un coup, genre comme ça, et à le faire rentrer dans son délire, et c'est ça qui est extrêmement fort, surtout que c'est une émission où, sans trop spoil, voyez, je le dis, c'est une émission, je l'ai pas dit c'est un film, j'ai dit c'est une émission, bref, on y reviendra, mais sans trop spoil, c'est une émission du coup où il y a aussi un rapport avec l'hypnose, etc. Et en fait, le fait que nous en tant que spectateurs on ait l'impression de faire partie de tout ça et d'être hypnotisé, c'est extrêmement fort, et ça fait que l'ambiance du film fonctionne du tonnerre, voilà, et en fait, et c'est là où je voulais en venir, pourquoi je dis émission, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être le public de l'émission, enfin en tout cas d'en faire partie, puisqu'il y a un public dans le film, mais on a vraiment l'impression d'être le public de l'émission. Et c'est extrêmement fort, hein. Je me souviens d'un moment où le public commence à pousser avec la voix pour encourager un personnage à faire quelque chose, et donc du coup le public est vraiment en mode oui, allez vas-y, fais-le, et en fait dans la salle ça a commencé à crier allez vas-y, fais-le, enfin bref, les gens encourageaient le personnage, hein, quand on y pense c'est totalement débile, on le fait chez nous dans notre canapé devant des films un peu, voilà, bref, j'ai pas trop d'exemples en tête, mais on le fait chez nous dans notre canapé, voilà, mais c'est débile de faire ça dans une salle de cinéma, parce que le film il est fait, c'est pas parce que vous allez encourager le personnage que il va plus facilement faire quelque chose. Et pourtant en fait le film est tellement bien réussi et embarque tellement bien dans son univers que ça donne vraiment envie, et voilà, on a l'impression de faire partie de ce public là, et c'est assez exceptionnel, je dois le dire. Du coup, en termes de code de réalisation, on est vachement sur les codes des late shows, hein, clairement, qui pour le coup ce style fonctionne très très bien, hein. Si l'émission fonctionne aussi bien, c'est que il y a une vraie appropriation, voilà, hein, tant dans la forme que dans le fond, voilà, qui pour le coup est vraiment vraiment très réussi. Et si ça marche autant aussi, hein, c'est parce que il y a une galerie de personnages qui est absolument géniale, hein. Bien évidemment, on a ce présentateur Jack Del Roy, qui est joué, je vais essayer de pas écorcher son nom, par David, voilà, j'ai même écorché son prénom bref, mais David Dasmalchian, voilà, qui pour le coup est cet acteur qu'on voit absolument dans tous les films, voilà, un peu populaires de ces dernières années, mais en second rôle, hein, voilà, on l'a vu dans Dune, je m'en souviens pas, mais apparemment on l'a vu dans Dune, on l'a vu dans les Ant-Man, on l'a vu dans Oppenheimer, d'accord, ok, je m'en souvenais pas non plus. On l'a vu dans le film d'horreur qui est sorti cette année de Rob Savage, de Boogeyman, voilà, et on l'a vu, voilà, le meilleur pour la fin, dans The Suicide Squad de James Gunn, où il jouait Polka Dot Man, voilà, c'est comme vous l'avez vous avez pu le constater, pardon, quelqu'un qui est habitué à être au second plan, et là on lui donne un premier rôle et c'est formidable, et voilà, il nous montre tout l'étendue de son talent, et il nous montre comment c'est un acteur qui reste profondément très sous-coté, et il campe parfaitement ce personnage là, voilà, et dans tout son mystère et toute sa complexité, hein, clairement, enfin bref, il a quand même son but bien précis, c'est de faire continuer son émission, c'est sûr, mais voilà. Et ensuite, on a les autres, hein, donc on a ce médium, pardon, qui s'appelle Christou, voilà. On a ce sceptique, voilà, qui s'appelle Carmichael Hunt, qui donc va vous expliquer que, le paranormal, c'est faux, et qu'en fait, lui a ouvert un institut pour prouver que c'était faux, et qu'en fait, quiconque arriverait à lui prouver que le paranormal est vrai empocherait un chèque d'un demi-million de dollars. Voilà, donc bref, c'est globalement la raison pour laquelle personne n'a jamais décroché son putain de chèque, c'est que, comme je l'ai dit, il est sceptique, c'est-à-dire que le propre du sceptique, c'est de réfuter tout. Voilà, peu importe, on a beau vous prouver aux sceptiques que c'est vrai par A plus B, il va quand même trouver un moyen de réfuter en répondant à autre chose. Voilà. Bref, donc c'est un vrai sceptique. Et justement, bah, pour prouver à ce sceptique qu'il a tort, on a notre duo, je trouve génial, duo d'actrices. Les deux actrices sont absolument formidables et dégagent quelque chose de fou, tant dans leur relation à elles deux que bah, juste dans leur performance en tant que telle, individuelle. Mais donc, on a un docteur, le Docteur June, qui est joué donc par Laura Gordon. J'ai cru que je l'avais déjà vu quelque part. Il se trouve que non, et pour le coup, bah, c'est dommage parce que c'est une excellente actrice. Et qui, en fait, ce docteur a sauvé, voilà, ou recueilli en quelque sorte, une petite fille qui s'appelle Lily, qui est jouée par Ingrid Torelli, qui, pour le coup, je ne connaissais pas non plus, mais bref, qui en gros est globalement possédée par un démon. Donc tout ce joli mélange fait que on arrive à des situations qui peuvent être un peu drôles, un petit peu absurde, voilà, et qui font que le film fonctionne extrêmement bien, voilà, et ouais, en fait, c'est un film qui, bon, bah, parle aussi de, bah, du deuil, hein, mine de rien, globalement, qui parle, bah, de la télé, en fait, hein, aussi, de jusqu'à où on est prêt à aller pour avoir de l'audience, et en tant que spectateur, qu'est-ce, jusqu'à où on est prêt à regarder, en fait, voilà, ces émissions-là, et au-delà de ça, en fait, c'est un film qui, je vais le répéter, hein, mais parce que, enfin, je tiens à insister dessus, qui est absolument brillant, tant il embarque comme ça dans son concept sans qu'on puisse s'en rendre compte. Et ouais, c'est un film absolument génial, absolument superbe, voilà, qui bah, aussi un fort témoignage d'une époque aux États-Unis. Mais ouais, je pense que mon admiration pour ce film, bah, risque de grandir au fil du temps parce que je trouve le procédé et le concept hyper fort, vraiment. Voilà, d'avoir repris ce late show pour en faire un film, c'est extrêmement fort, et voilà, c'est un film que j'ai adoré, qui fait partie de mes coups de cœur de la compétition. Et donc, bah, je ne sais pas s'il a un distributeur en France, hein, je vais regarder ça tout de suite. Bon, écoutez, sur Allociné, c'est marqué qu'il n'y a pas de distributeur, hein, voilà, c'est ce qui est vraiment dommage parce que le film est excellent. En tout cas, si jamais il en trouve un, ce que j'espère, je vous encourage fortement à aller voir ce film ainsi que En Boucle, hein, voilà, parce que c'est les deux meilleurs films de la compétition pour l'instant, très clairement. Et voilà, donc je tiens à redire toute mon admiration devant cet aspect absolument hypnotisant qu'a Late Night with the Devil. Et donc, ouais, hein, voilà, encore une fois, un des meilleurs films de la compétition. Et j'avais un instinct qui était pour le coup, voilà, plutôt juste. Et j'en suis pas mal fier. Et j'espère, hein, voilà, que ce sera un de ceux qui sera primé mardi. Allez, on va quitter donc la compétition, hein, pour repartir sur les films, un film en tout cas hors compétition. Et donc, on va parler du film Wake Up de François Simard, de Anouk Wessel et de Johan Carl Wessel. We're gonna grab Grace and get the fuck out of here, yeah? Time's up. No, 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 fuck! No! We have more time! Your friend won't hold on any longer. He kept us busy for a reason. Guys, he's setting a trap. Un groupe d'activistes s'introduit de nuit dans un grand magasin dans le but de dénoncer son impact environnemental. Ils ne vont rencontrer comme seul interlocuteur que deux vigiles, dont un bricoleur avec, disons, de gros problèmes de gestion de la colère. Alors effectivement, c'est une manière de le formuler, hein. Moi, j'aurais plus dit, pardon, que le mec était un gros taré, mais c'est une manière de le formuler, voilà. Non, plus sérieusement, c'est un film qui, bon, moi, m'attirait plutôt, hein, sur l'image qu'on en avait eue, hein, voilà, qui, je trouvais, disait pas trop, mais en fait on voyait, bah, des gens avec des armes et des masques d'animaux, ce qui, pour le coup, je sais pas, moi il y avait une vibe qui m'attirait. Et en fait, bon, il se trouve que c'est un film qui, comment dire, dans son genre, on en voit beaucoup au pif, hein. Enfin, je parle plus de la vibe, hein. Hier, je vous parlais de The Sacrifice Game. Pour moi, c'est un film qui est un peu dans la même vibe, c'est-à-dire que c'est un film où, en fait, quand on commence, on sait pertinemment que ça va pas être exceptionnel, mais on se dit, franchement, si le film est bien géré, il y a moyen que ce soit un moment très sympa, voilà. Et en fait, le plus souvent, bah, ces films ne sont pas des moments très sympas. pas. Voilà, ce qui est un peu dommage. Parce que, bah, généralement, comme The Sacrifice Game, c'est des films qui sont ratés, qui deviennent de plus en plus débiles, qui se maîtrisent pas forcément, et qui bah, ne vont pas forcément bah, assez loin dans leur délire. Voilà, et donc ça fait que c'est des films qui sont pas spécialement réussis en général, les films avec cette vibe-là. Et donc, bon, bah, quand Wake Up a commencé, et que j'ai compris que c'était des films dans ce délire-là, j'avais toutes les raisons d'avoir peur, hein, tout simplement. Et pour autant, bah, c'est un film qui bah, reste très sympathique. C'est-à-dire que c'est la remarque qu'on s'est fait en sortant, hein. C'est pas non plus du grand cinéma, c'est pas un des meilleurs films qu'on ait pu voir bah, dans ce pif, mais c'est un film qui est plutôt rigolo à regarder. Qui est plutôt rigolo à regarder pour plusieurs choses, hein. Voilà, je vais commencer par son concept. Bah, vraiment des activistes qui se rendent dans l'équivalent d'IKEA, hein, très clairement, pour tout péter, pour dénoncer bah, l'impact environnemental. C'est plutôt rigolo, enfin, plutôt rigolo dans l'idée, quoi. Bref, ils se mettent à faire un paintball géant dedans. Donc, bref, il y a quelque chose quand même d'assez. Voilà, on se dit bon. En vrai, pourquoi pas? Ça peut être très sympa à faire même dans la vraie vie. Calmez-vous, Ikea, je ne vais pas faire de paintball dans votre magasin. Mais c'est juste que, bah, dans l'idée, en vrai, on se dit, bah, c'est plutôt rigolo, quoi. Voilà. Qui n'a jamais rêvé, je prends un tout autre exemple, hein, mais de faire un cache-cache dans un Ikea. Enfin, voilà, c'est quand même c'est pas du tout Ikea. Hein. Je vais dire Ikea tout le nom parce que déjà, j'ai oublié le nom du magasin du film. Et puis surtout, je trouve ça beaucoup plus drôle de dire Ikea. Bref, mais ouais, bon, voilà. Ikea, c'est quand même un lieu. Enfin, qui est fun, je trouve, hein, très clairement, et qui est un des magasins où c'était le plus intéressant, à mon sens, de situer une intrigue. Voilà, et donc, du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Et ce concept est super bien utilisé, hein, puisque bah, y a vraiment beaucoup de choses qui sont en rapport, comme bah, l'entrepôt. Voilà, vous savez, quand vous allez chez IKEA, s'il y a des gens qui n'ont jamais été dans ce type de magasin, je vais arrêter de dire IKEA parce que c'est du gros placement de produit depuis tout à l'heure. Bah, bref, mais pour les gens qui ont jamais été dans ce type de magasin, vous avez donc bah, les rayons où globalement bah, vous avez même des décors en fait, hein. C'est des décors, hein. Pour moi c'est pas des trucs de vente, bref, où vous pouvez voir pas mal de produits. Et mettons, vous avez repéré un matelas qui vous plaît bien et un sommier, bah en fait après vous avez des sortes de géants entrepôts où on vous dit bah ok, pour avoir ce que vous voulez, il faut aller bah, telle allée à tel numéro, voilà. Et c'est comme ça que vous récupérez les choses. Donc bref, il y a cette utilisation de cette utilisation-là, de ce principe-là. Et il y a d'autres excellentes idées, hein. Je suis désolé, ça va un petit peu spoil, mais je suis obligé de vous en parler tellement l'idée est géniale. Il y a un moment où, bref, en gros, un des agents de sécurité leur dit, bah écoutez, vous voulez essayer de sauver votre ami, très très bien. Vous voyez cette armoire que vous avez saccagée, bah vous allez me la reconstruire en 15 minutes. Et genre vraiment, je trouve ça exceptionnel, genre l'idée de pour sauver la vie de quelqu'un, tu dois monter une armoire Stummel de chez Ikea. Enfin bref, c'est absolument exceptionnel. Voilà, surtout que bah, pour ceux qui ont déjà monté des meubles, vous le savez, en 15 minutes, c'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Donc non, l'idée est vraiment géniale et ils sont vraiment en train de s'organiser en mode Tom Cruise. Alors ouais, cette vis-là, elle va là, machin. Enfin bref, la scène est exceptionnelle. Donc non, il y a des très très bonnes idées. Voilà, hein, c'est un très bon concept et il y a des très bonnes idées qui sont liées. Et l'autre chose qui fait que bah, ce film est assez sympa à regarder, c'est ses personnages. Hein, voilà, mine de rien. C'est vrai que bon bah chez les activistes, je trouve qu'il y a moins de singularité qui se dégage. Mais par contre, cet agent de sécurité là, qui donc et d'ailleurs c'est un peu drôle, hein, parce que du coup, enfin c'est pas un peu drôle, c'est totalement pensé pour, mais donc ils sont activistes bah, pour le mettre fin à la souffrance des animaux, ils ont des masques d'animaux, et le gardien de sécurité est un gros chasseur, donc voilà, c'est quand même plutôt cocasse. Donc ouais, bon, chez les activistes, pas vraiment de trucs qui ressortent, à part peut-être effectivement le fait qu'il y a le petit nouveau du groupe, voilà, mais sinon, il n'y a pas vraiment de très hyper défini à mon sens. Par contre, effectivement, ouais, ce gardien de sécurité, il y a. C'est un délire ce personnage. Hein. Et c'est typiquement le genre de personnage qui fait que on est dans la vibe que je vous ai décrite, hein, voilà, mais c'est bah, du coup quelque chose qui. Ouais, en étant cet esprit de taré, fait que bah, y a des mises à mort très très cool, hein, puisqu'il va créer tout un tas de pièges pour essayer de les avoir. Donc bah il y a des meurtres pour le coup qui sont hyper inventifs, hyper ludiques et qui bah voilà dans les pièges fonctionnent extrêmement bien. Ça participe en grande partie au fait que le film soit extrêmement sympathique. Et quand je vous dis inventif, ça peut aller de trucs un peu mécaniques où bah par exemple un truc tout con, hein, ils se prennent le pied dans un fil qui a été installé au niveau du sol et ça déclenche quelque chose. Comme un truc, cette scène est absolument folle d'ailleurs, même en termes de mise en scène et d'idées. Au moins il leur fait couler un liquide dessus et en fait il éteint toutes les lumières et en fait ils deviennent tous fluorescents quoi. Enfin bref, il y a vraiment énormément d'inventivité et je trouve ça absolument génial en fait. On a ce personnage là qui est vraiment vraiment très très cool, qui justement c'est un peu lui qui va dynamiser le truc et rendre le film sympa, même si bon bah pour le coup on parle quand même de mise à mort hein, clairement. Mais au bout d'un moment, quand on va voir des films de genre, c'est aussi ce qu'on cherche, hein, des films un peu voilà qui envoient comme ça, où il y a des mises à mort un petit peu trash, un petit peu ludique, hein, voilà. C'est ce qu'on cherche et c'est typiquement le genre de film qu'on a envie de voir dans un festival comme le PIF. Non, pour le coup, beaucoup apprécié cet aspect-là. Maintenant, effectivement, comme j'ai dit, c'est pas non plus incroyable, mais voilà, ça reste un film qui voilà est très 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 sympathique à regarder, qui a un excellent concept, hein, voilà, mais qui bon va pas non plus bref proposer des miracles ou des choses hyper novatrices dans le cinéma. Toujours est-il que c'est un film qui bah voilà reste agréable à regarder et c'est ça qui est pas mal, hein, c'est que bah comme je vous ai dit, il y a beaucoup de films dans cette vibe, voilà pour le coup on a parlé de Sacrifice Game hier, mais il y a beaucoup de films dans cette vibe qui ne sont pas top et en fait bah voilà on n'arrive pas tellement à accrocher, à rentrer dedans et on s'ennuie pas mal comparé à voilà des films comme ça qui fonctionnent bien. Non, pour le coup un film très très sympathique, très rigolo à regarder et je trouve ça très important dans un festival de genre et donc je suis content qu'il soit dans la sélection. Allez, on va passer au dernier film. Eh oui, je sais c'est long. Bref, mais on arrive au dernier de cet épisode. On va passer au film qui est dans la catégorie qu'on appelle au pif la séance interdite. On va parler de Run and Kill de Billy Tang. Un soir de beuverie dans un bar, un mari cocu fait part du désir de se débarrasser de sa femme à un compagnon de boisson inconnu. Il enclenche sans le savoir un engrenage funeste où chaque geste de résistance l'enfonce un peu plus dans les ténèbres. Alors, un petit peu de contexte sur ce film. C'est un film donc de ce qu'on appelle de catégorie 3. La catégorie 3, c'est donc un système de classification hongkongais qui a été mis en place durant une certaine période, j'ai plus du tout les dates, qui a été mis en place en tout cas en 1988, et donc c'est les films un petit peu, enfin pas un petit peu, c'est la catégorie qui est consacrée aux films transgressifs à Hong Kong, voilà, hein, que ce soit par leur caractère violent, sexuel, etc. C'est donc les films transgressifs qui sont totalement interdits aux moins de 18 ans. Et ça a son importance, hein, pour le coup, dans ce contexte-là, puisque, comme on vous l'a dit au pif, il y a cette fameuse séance de minuit, hein, voilà, la séance interdite, hein, ça s'appelle. C'est censé être la séance où on projette les trucs un petit peu hardcore, les trucs un peu, qui envoie. Et en fait, on nous a vraiment pitché le film en nous disant c'est peut-être la pire catégorie 3 qui existe, la catégorie 3 la plus trash et la plus hardcore possible. Voilà, celle qui met le plus mal à côté, par exemple, Ebola Syndrome que j'ai pas vu, hein, mais bref, par exemple, à côté Ebola Syndrome, c'est rigolo. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose. J'étais putain, mais qu'est-ce que je vais voir? Comment je vais ressortir, etc. J'avais peur en fait, hein, de cette séance. Hein, je me suis dit, mais putain, comment je vais ressortir de là, quoi. Et au final, je trouve que c'est un gros pétard mouillé. Voilà, j'ai été plutôt déçu de cette séance. Je précise bien de cette séance. Hein, je trouve que le film a de vraies qualités intrinsèques. Je pense notamment à sa mise en scène, hein, clairement, qui est un des plus gros points forts. On est un petit peu dans ce que je vous avais dit avec l'enfer des armes, hein, on est dans tout ce qui est aussi histoire de gang, histoire d'argent, d'armes, de gens qui se retrouvent dans un engrenage qui les dépasse totalement. Et donc voilà, il y a une très très bonne mise en scène, des scènes d'action. Notamment, et bref, même c'est en général, hein, de la composition des plans, je trouve que, bah, notamment dans les gros plans et des grands angles sur le personnage principal, je les trouve extrêmement, extrêmement réussis. Puis il y a tout ce qui est photo, hein, on a cette teinte qui, voilà, c'est un film qui a quand même une teinte qui est pas mal bleue, mais voilà, il la maîtrise bien parce que le bleu, c'est, je trouve, très, très piégeur, hein, voilà, ça peut vite faire une teinte pas vraiment très belle, mais pour le coup, il la maîtrise bien et donc, bah, ça vient jouer avec d'autres couleurs, notamment quand il y a du feu dans le film, donc ça fonctionne très bien, ça se lit très très bien. Et voilà, ça c'est vraiment des putains de qualités qu'il y a dans le film. Maintenant, effectivement, quand on me dit film de catégorie 3, quand on me dit c'est une des pires catégories 3, je m'attends à ce que le film défonce un petit peu, que bah il y ait des choses un petit peu trash, un petit peu choquantes. Et en vrai, très honnêtement, moi le seul truc qui m'a réussi à me mettre mal, il est vers le début, c'est une tentative de viol, voilà, parce que bon bah c'est une tentative de viol, donc forcément bah, ça me met assez mal, sauf que c'est à peu près la seule scène du film, voilà, où j'ai vraiment réussi à prendre le film au sérieux, sinon je voyais ça comme un truc un petit peu humoristique, sans comprendre pourquoi, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui se tirent dessus, qui se tabassent, qui se tuent, etc. Mais en vrai j'ai vu tellement plus violent, voilà, et je sais que bah, c'était notre époque aussi, etc. Mais le fait que même bah, les programmateurs nous aient dit que c'était une des pires, ça m'a rendu assez perplexe en fait, voilà. Et même rien que dans la journée, on a vu, bah, comme je vous l'ai dit à l'intérieur, même si j'ai pas aimé, bah, c'est quand même un film qui est vachement plus violent, je trouve, voilà. Là, ce qui est pas mal, voilà, dans le scénario et ce qui est bien trouvé, c'est que c'est vraiment un mec qui, globalement, est bourré, qui va dire n'importe quoi parce qu'il est bourré, voilà. Bon, après, il a des propos que même bourré, normalement, tu dois pas avoir, bref. Mais en gros, juste bah, à cause de ça, il va se retrouver dans un bourbier, mais absolument monumental, où littéralement il y a zéro bonne réponse. C'est-à-dire que le mec a beau faire tout ce qu'il veut, ça s'enfonce encore plus. C'est vraiment c'est un cercle vicieux. Le gars a beau faire ce qu'il veut, bref, il s'enfonce, il creuse sa propre tombe à chaque fois. Voilà, et c'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Et je trouve que c'est voilà, la meilleure idée du film. Maintenant, j'aurais bien aimé que ce soit beaucoup plus accentué. Voilà, parce que. Bon, effectivement, j'y viendrai après. On a cette séquence de fin où effectivement, bon bah, ça atteint un certain niveau, voilà, plutôt pas mal dans les événements. Mais je trouve que bah, les autres paliers auraient dû être vraiment marqués aussi, quoi. Voilà, et là, ça manque de choses un petit peu, ouais, choquants qui bah, vont venir nous remuer dans nos sièges, peut-être un petit peu nous chambouler. Voilà, c'est aussi un peu ce qu'on venait chercher dans cette séance interdite. Voilà, ce que pour ma part je n'ai pas eu, même si du coup, et j'en viens, la fin est absolument génial, cette dernière séquence. Voilà, pour le coup, il y a des choses qui sont vraiment osées. Où justement, bah, moi, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout vu ce film au sérieux. Hein. Si j'ai été rentré premier degré dedans, les scènes de la fin, elles m'auraient absolument horrifié. Et je pense que bah, j'aurais été en larmes, hein, pour le coup. Mais pour le coup, je suis pas rentré dedans. Et voilà, c'est un film que j'ai pris bah, un petit peu même limite au second degré. Et je pense, attention, je vais spoil. Hein, donc voilà, c'est le dernier truc que je dirais sur ce film, donc voilà, si vous l'avez pas vu, bah, et que vous voulez pas vous faire spoil, n'écoutez pas, allez directement à l'outro. Mais en gros, je pense à cette scène du coup dans le hangar où bah, le mafieux, enfin c'est pas vraiment un mafieux, je sais plus, bref, brûle la fille du personnage principal. Voilà, donc bon, bah, la scène où il brûle la fille en soi, il y a rien de drôle et d'amusant, mais ensuite donc bah elle va être, bah c'est comme si, bref, elle est brûlée, mais son corps est encore là, et donc il va lui ramener son cadavre. Brûlée, mais bon, bref, c'est comme si elle s'était transformée en une espèce de pierre en brûlant, c'est un peu bizarre. Et en gros, il va imiter la voix de sa fille en lui disant: Ouais, j'espère que tu m'aimes toujours, même si je suis un petit peu bronzé. Enfin, bref, ça, c'est des trucs en termes de dialogue, faut oser. Et après, là, j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, je suis désolé. Mais il y a ce truc, donc, bah, cette statue qui a dû être faite bah, par l'équipe hein, du film, hein, l'équipe, je sais pas quoi, déco, peut-être, accessoire, qui ne ressemble pas à sa fille. Voilà, qui lui ressemble pas et tout, et qui bah, est assez incohérent parce que bah, c'est quand même bizarre que quand quelqu'un brûle, qu'il devienne ce truc, voilà, qui est pas du tout cohérent. Et donc, en fait, quand il arrive à se libérer, il va prendre ce truc là, se barrer en courant, voilà, en le prenant. Et là, j'ai éclaté rire une première fois, et ensuite, bah, En courant, il le fait taper contre un mur et la tête de sa fille part. Et je suis désolé, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible quand on y pense premier degré. C'est-à-dire que le mec a perdu sa fille. Il se barre avec un espèce de cadavre. Enfin bref, on sait même pas ce que c'est. Et en plus, il tape sa tête et la tête de sa fille tombe et se casse. Enfin bref, c'est absolument horrible. Mais en même temps, bah, pour quelqu'un qui est pas vraiment rentré ultra premier degré dans le film et qui bah, avait un peu envie de voir un truc où bon, bah, ça se lâche, pardon. Et donc du coup, on peut se taper des petites barres voilà, devant des films un petit peu trash. Voilà, ça c'était vraiment mon intention en allant à Sens Interdite, hein, c'était de rigoler devant un film un peu trash. Bah, là, pour le coup, j'étais pleinement servi et j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, hein, très clairement. Mais donc voilà, je trouve, outre rares exceptions comme ces scènes-là, que c'est un film qui n'en fait jamais, en tout cas, ou trop peu assez, voilà, qui bah, devrait être en fait totalement jouissif et devrait proposer des trucs, bah, comme je vous ai dit, hein, extrêmement trash, qui bah, soit trauma le spectateur, hein, ce qui est une possibilité, soit qui vont le faire rire, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même hein, une petite dimension comique hein, qui est induite dans le film. Voilà, donc tout simplement, je pense que ça aurait pu être une bonne solution. Mais pour le coup, c'était pas le cas, et c'est fort dommage, voilà, et ouais, même si c'est loin d'être un mauvais film, je suis plutôt déçu par cette Sens Interdite. Allez, c'est enfin la fin de cet épisode, je vais absolument décéder. À l'image de Godzilla, hein, c'était une séance assez tardive, donc je suis rentré assez tard, donc là, l'heure où je finis d'enregistrer, il est 4h du matin, c'est vraiment énorme, hein. De toute façon, ce festival me dérègle totalement. Donc demain, je ne fais pas les trois premières séances. Voilà, je suis bah, en partie sur un tournage. Et puis, bon, bah, les courts-métrages, c'est vrai que j'ai vraiment pas la foi d'y aller avec tout ce que je vois déjà. Moon Garden, je l'ai déjà vu à l'étrange festival. Hein, si vous voulez écouter mon avis dessus, il est disponible sur le podcast. Et donc, le seul long-métrage que je vais louper, c'est I'll Crush You All. Mais bon, bah, je sais pas, c'est un film de la séance parallèle qui, bon, m'avait pas forcément inspiré avec Property, donc voilà, j'ai pas forcément envie de retenter l'expérience, et puis de toute façon, j'ai pas envie de me lever tôt, clairement, j'ai envie aussi de me reposer, donc je pense, et je ferai tout pour être à, voilà, je pense que j'y serai, mais je ferai tout pour être à Vampire Humaniste, Cherche Suicidaire Consentant, qui sera probablement ma plus grosse attente de demain, parce que bah, vu le nom, voilà, voilà, peut-être un nouveau Kunkar en compétition, et ensuite il y a When Evil Lurks, qui apparemment est vraiment pas mal aussi, donc bah, pour le coup, très 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 hâte des séances de demain, voilà. Même si bon bah je serai pas aux trois premières puisque je suis sur un tournage. Mais donc bah voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, donc je vous dis tout simplement à demain. Voilà, pour un nouveau débrief avec cette fois seulement deux films. Hein, on va pas faire à chaque fois cinq parce que ça fait beaucoup. Mais en tout cas, voilà, je prends quand même beaucoup, beaucoup de plaisir à couvrir ce festival. Et cette année, on a des très 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 bons films, surtout en compétition. Voilà, c'est vrai que je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu l'année dernière, hein. C'est des très bons films en compétition, bah, tout simplement des très bons films en compétition. Et là, cette année, ouais, on est particulièrement servi dans cette compétition, donc je suis assez heureux. Voilà, et donc bah, j'en découvrirai un demain, et donc je vous dis voilà, encore une fois, à demain donc, pour un nouveau débrief.